Horace, l'art poétique, dit aussi épître au pison. Si un peintre s'avisait de mettre une tête humaine sur un cou de cheval et d'y attacher des membres de toutes les espèces qui seraient revêtus des plumes de toutes sortes d'oiseaux, de manière que le haut de la figure représentât une belle femme et l'autre extrémité un poisson hideux, je vous le demande, pison, pourriez-vous empêcher le rire à la vue d'un pareil tableau ? C'est précisément l'image d'un livre qui ne serait rempli que d'idées vagues, sans dessin, comme les délires d'un malade où ni les pieds, ni la tête, ni aucune des parties n'iraient à former un tout. Les peintres, direz-vous, et les poètes ont toujours eu la permission de tout oser. Nous le savons, c'est un droit que nous nous demandons et que nous nous accordons mutuellement. Mais c'est à condition qu'on n'abusera point de ce droit pour allier ensemble les contraires, et qu'on n'accouplera point les serpents avec les oiseaux, ni les agneaux avec les tigres. Quelquefois, après un début pompeux et qui promet les plus grandes choses, on étale un ou deux lambeaux de pourpre qui brillent au loin. C'est un bois sacré qu'on décrit ou quelque hôtel de Diane, ou les détours d'un ruisseau qui fuit dans les riantes prairies, ou les flots du Rhin, ou l'arc céleste formé par la pluie. Mais ce n'était pas le lieu. Vous savez peindre un cyprès. Celui qui vous paie pour le peindre a brisé son vaisseau et va périr dans les mers. Vous avez commencé un vase majestueux, l'art où tourne, et vous ne donnez qu'une chétive burette. Enfin, quelque sujet que vous traitiez, qu'il soit simple et un. L'apparence du bon vous trompe presque tous. Vous ne l'ignorez pas, père illustre et vous, fils digne d'un tel père. Je tâche d'être court, je deviens obscur. Je veux être poli et délicat, j'ôte l'âme et les nerfs. Mais celui qui veut s'élever est enflé. Celui qui craint trop l'orage et le danger rampe à terre. Il en est de même du poète qui veut varier son sujet par le merveilleux. Il peint un dauphin dans les bois et un sanglier dans les flots. La crainte d'un défaut nous jette dans un autre quand on ignore l'art. On verra après de l'école d'Emilius un artiste exprimer excellemment les ongles et la mollesse des cheveux avec le bronze, mais son ouvrage restera imparfait parce qu'il ne saura point faire un tout. Si j'entreprenais de composer un poème, je ne désirerais pas plus de ressembler à cet homme que d'avoir un nez difforme avec de beaux cheveux et de beaux yeux. Vous qui entreprenez d'écrire, choisissez d'une matière proportionnée à vos forces et essayez longtemps ce que peuvent ou ne peuvent point porter vos épaules. Celui qui aura choisi un sujet proportionné à son talent saura le rendre comme il convient et dans un ordre lumineux. Cet ordre, pour avoir toute la grâce et tout l'effet possible, demande, si je ne me trompe, qu'on dise dans l'instant où l'on prend l'action ce qui doit être dit dans cet instant, et qu'on renvoie l'exposé du reste à quelque occasion favorable. L'auteur d'un poème considérable ne doit rien écrire qu'avec beaucoup de choix. L'assortiment des mots entre eux demande aussi beaucoup d'art et de finesse. Cet assortiment sera heureux si on s'est donné à un mot connu le piquant d'un mot nouveau. Si par hasard un écrivain se trouve dans la nécessité de faire connaître par des signes de nouvelles inventions, des gios qui jusqu'alors sont inconnus, rien ne l'empêchera d'en créer que nos vieux cet aigus n'aient point entendu, pourvu qu'il ne porte pas trop loin cette liberté. Et ces mots de nouvelles créations seront reçus, s'ils sont grecs d'origine, latinisés par une légère inflexion. Pourquoi n'accorderait-on pas à Virgile et à Varius ce qu'on a accordé à Lucilius et à Plaute ? Pourquoi ne ferait-on à moi un crime d'enrichir ma langue de quelques mots, si je le puis, tandis que les Catons et les Ennius l'ont fait avant moi ? Il a été permis, et il le sera toujours, de produire un nouveau mot pourvu qu'il soit marqué au coin de l'usage régnant. Quand les forêts quittent leurs feuilles au penchant de la saison, les premières venues tombent les premières. Il en est de même des mots. Les vieux périssent, et les nouveaux brillent avec les grâces et la vigueur de la jeunesse. La mort a ses droits sur nous et sur tout ce qui tient à nous. Ces immenses bassins creusés par la main des rois pour recevoir la mer et mettre les flottes à l'abri des aquilons, ces vastes marais qui ne portaient que d'inutiles barques et qui aujourd'hui connaissent la charrue et nourrissent les villes voisines, ces rivières nuisibles aux moissons et qui ont appris à suivre un autre cours, tous ces ouvrages de la main des mortels périront comme eux. Et on voudrait que des mots conservassent toujours leur beauté et leur éclat. Il en est qui sont tombés et qui renaîtront un jour. D'autres règnent et tomberont à leur tour si l'usage l'ordonne. L'usage qui est le juge, le maître et la règle des langues. Homère nous a montré en quel vers on doit chanter les rois, les héros, les tristes combats. La plainte se renferma d'abord dans les distiques inégaux. Ensuite, on y fit entrer aussi la joie, les succès. Nous ne dirons point qui fut l'inventeur du petit vers élégiaque. C'est un problème qui n'est pas encore décidé parmi les gens de lettres. L'ardeur de la vengeance arma Achilloque de Iambe, dont il fut l'auteur. Le brodequin et le cothurne majestueux adoptèrent ce pied, parce qu'il est propre au dialogue, qu'il est né pour l'action et qu'il se fait entendre malgré le bruit des spectateurs. La lyre chante les dieux et les héros vont fendre les dieux, et l'athlète vainqueur et le coursier qui a remporté le prix, et les soucis de la jeunesse et la libre gaieté des buveurs. Si je ne connais ni ne puis rendre les couleurs propres et les nuances de chaque genre, je ne mérite point le nom de poète. Pourquoi, par une mauvaise honte, l'ignorais-je plutôt que de m'en instruire? Un sujet comique ne doit pas être rendu en vers tragique, et réciproquement, le festin de Thieste ne pourrait se soutenir en vers familiers, convenables aux brodequins. Chaque genre doit se renfermer dans ses limites. Quelquefois, pourtant, la comédie élève le ton. Crémesse, en colère, gourmande son fils d'un style haut et vigoureux, et de même la tragédie s'abaisse dans la douleur. Quand Téléphe et Pélée sont tous deux bannis et réduits à l'indigence, ils renoncent aux phrases pompeuses et aux grands termes, s'ils veulent nous toucher par le récit de leurs mots. Ce n'est pas assez que les poèmes soient dans leurs couleurs, il faut encore qu'ils soient touchants et qu'ils mènent le cœur de l'auditeur où il leur plaît. Le visage de l'homme devient triste ou riant à la vue de ceux qui pleurent ou qui rient. Si donc vous voulez que je pleure, il faut d'abord que vous pleuriez vous-même. Ce sera alors, Téléphe et Pélée, que je serai touché de vos disgrâces. Si vous rendez mal votre rôle, vos malheurs me feront ouvrir ou bâiller. Un air triste demande des paroles tristes, un air irrité des paroles menaçantes, un air enjoué ou sévère, un style gai ou sérieux. La nature nous a rendus capables de toutes sortes de sentiments selon les situations où le sort peut nous mettre. Elle nous anime ou nous porte à la colère. Elle nous resserre ou nous abat par la tristesse. Ensuite, elle se sert de la langue comme d'un interprète pour faire sortir les sentiments. Si vos discours n'ont pas le style et le ton de votre situation, tous les Romains, le peuple et les grands se moqueront de vous. Il y a une grande différence entre un valet qui parle ou un héros. Le vieillard grave et le jeune homme dans le feu de l'âge, une dame de qualité et une nourrice tendre ont un langage très différent. Il en est de même du marchand qui voyage et du laboureur qui cultive en paix son champ fertile, de celui qui est né en Colchide ou en Assyrie, de celui qui a été élevé à Thèbes ou à Argos. peignez d'après la renommée, ou si vous créez, que toutes les parties soient d'accord entre elles. Si par hasard vous remontrez à Achille vengé, qu'il soit actif, ardent, colère, implacable, qu'il ne reconnaisse point de loi, qu'il n'y ait rien qui ne s'arroge par les armes. Médée sera cruelle, inflexible, Ino gémissante, Ixion perfide, Io errante, reste triste et mélancolique. Si vous osez donner à la scène un caractère entièrement neuf, qu'il soit à la fin tel que vous l'avez montré au commencement, et qu'il ne se démente nulle part. Mais il est bien difficile de donner des traits propres et individuels aux êtres purement possibles. Il est plus sûr de tirer un sujet de l'Iliade que de donner des choses inconnues dont personne n'ait jamais parlé. Cette matière, déjà donnée au public, deviendra votre bien propre, si vous ne vous attachez pas trop à la lettre, ni à rendre trait pour trait, et que vous n'alliez point par une imitation scrupuleuse vous mettre dans des entraves telles que vous ne le puissiez ni avancer sans blesser les règles, ni reculer sans rougir. Vous ne commencerez pas, comme autrefois un poète cyclique, « Je chante les fortunes de Priam et cette guerre fameuse ». Où ira ce prometteur après un tel début? La montagne en travaille, enfante une souris. Que j'aime bien mieux, celui qui commence simplement et sans orgueil. Muse, parlez-moi de ce héros qui, après la ruine de Troie, parcourut les villes et connut les mœurs de leurs habitants. La fumée ne viendra pas après la flamme, mais on verra les plus riches tableaux après cet exorde modeste. On verra Antiphate, Scylla, Charybde, le Cyclope et une infinité d'autres merveilles. Il ne remontera pas à la mort de Méléagre pour en venir au retour de Diomède, ni jusqu'aux deux œufs de Léda pour raconter la guerre de Troie. Il court à l'événement, il emporte ses lecteurs au milieu des choses comme si le reste leur était connu. Il abandonne tout ce qu'il ne peut traiter avec succès. Enfin, dans ses mensonges, il mêle avec tant d'art le faux avec le vrai, que le commencement, le milieu, la fin paraissent un tout de même nature. Désirez-vous savoir ce que nous demandons de vous, le public et moi? Daignez m'écouter. Si vous voulez qu'un spectateur, toujours attentif, suive votre pièce de scène en scène, jusqu'à ce que le cœur dise « battez des mains », vous vous attacherez à bien marquer les mœurs qui varient, ainsi que les âges. L'enfant qui sait déjà répéter les mots et former les pas assurés aime à jouer avec ses pareils. Il se fâche sans savoir pourquoi et s'abaisse de même. Il varie à chaque instant. Le jeune homme, délivré enfin de son gouverneur, se plaît à nourrir des chevaux, des chiens, à s'exercer dans le champ de Mars. Il est de cire pour recevoir la pression du vice. Il se cabre contre les avis, il ne prévoit rien. Il est prodigue, vain, a envie de tout, et le moment d'après, il ne veut plus de ce qu'il a désiré. Les goûts changent. L'homme fait, songe à amasser du bien, à acquérir des amis, à s'élever aux honneurs. Il prend garde de faire quelques démarches dont il puisse se repentir. Une infinité de mots assiège le vieillard. N'y eut-il que le désir d'amasser et la crainte d'user. Il ne fait rien qu'avec lenteur et en tremblant. Il est temporiseur, sans confiance, sans ressources en lui-même, se défiant de l'avenir, quinteux, plaintif, vantant sans cesse le temps passé lorsqu'il était jeune, prêchant, grondant tout ce qui est moins âgé que lui. Les années croissant jusqu'à un certain point, apportent à l'homme plusieurs avantages qu'il perd ensuite à mesure qu'il s'éloigne de ce même point. Gardez-vous de donner à un jeune homme les mœurs d'un vieillard, ni à un enfant celles d'un homme fait. Attachez-vous aux traits qui caractérisent chaque saison. La chose qui se fait est en action ou en récit. Ce qu'on entend raconter frappe moins que ce qu'on voit de ses yeux. Les yeux sont plus fidèles. Par eux, le spectateur s'instruit lui-même. Gardez-vous cependant de mettre sur la scène ce qui ne doit se passer qu'au dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent point paraître aux yeux et dont un acteur vient rendre compte un moment après. Médée n'égorgera pas ses enfants sur le théâtre. L'horrible attrait n'y fera pas cuire des entrailles humaines. Poignier ne s'y changera point en oiseau, ni Cadmus en serpent. Cette manière de les présenter serait odieuse et détruirait l'illusion. Une fable dramatique aura 5 actes, ni plus ni moins, si on veut qu'elle soit redemandée plusieurs fois. On n'y fera point intervenir de divinité, à moins que le dénouement ne soit digne d'un pouvoir surnaturel. Un 4e acteur y parlera peu et rarement. Le cœur y fera l'office d'un acteur, et jamais il ne chantera rien dans les entr'actes qui n'aident à l'action et qui ne soient liés avec elle. Il donnera sa faveur et ses conseils aux personnages vertueux. Il apaisera la colère, adoucira la fierté. Il louera les mets d'une table frugale, les effets heureux de la justice, des lois, de la paix, qui laissent ouvertes les portes des villes. Il gardera scrupuleusement le dépôt confié. Il sera religieux et priera les dieux de protéger l'innocent qui souffre et de punir le coupable orgueilleux. La flûte n'était pas autrefois allongée comme aujourd'hui par des anneaux de laiton et ne ressemblait point à la trompette guerrière. Douce, simple, elle n'avait que peu de trous, autant qu'il en fallait pour accompagner le cœur et se faire entendre dans un espace peu étendu où se rassemblait un peuple peu nombreux, sage d'ailleurs et modeste. Mais lorsque ce même peuple eut étendu son domaine par ses victoires, que ses murs reculés eurent agrandi la ville, et qu'il eut appris à faire pendant la journée des libations de vin pures aux dieux de la joie, il fallut alors que les rythmes et le chant fussent plus marqués et plus forts. Car quelle délicatesse pouvait avoir le citoyen des champs qui, laissant un moment ses travaux, venait se mêler avec l'habitant de la ville, l'homme grossier et ignorant avec l'homme poli et instruit. Il fallut donc que le mouvement fût plus marqué et que l'art fût plus sensible. L'acteur traîna une longue robe sur les théâtres, la cithare ajouta à ses cordes des cordes plus aiguës, l'élocution même prit un nouvel essor et ne différa plus de celle des oracles qui instruisent les mortels et leur annoncent l'avenir. On alla plus loin. Le poète tragique, qui jadis avait obtenu pour prix un bouc, montra les satyres nus et essaya de faire rire même en conservant la gravité de son genre, parce qu'il fallait retenir par le charme de quelque nouveauté un spectateur qui revenait des sacrifices plein de vin et incapable de se tenir dans les bornes. Mais si l'on veut introduire sur la scène des satyres rieurs et mordants, et allier le sérieux avec le plaisant, il faudra prendre garde que l'acteur tragique, soit dieu, soit héros, qui figure avec le satyre, et qui un moment auparavant étalait l'or et la pourpre des rois, n'aille point tout à coup par un style bas et ignoble entrer dans les boutiques du petit peuple, ou que, voulant éviter la bassesse, il ne se perde dans le vide et n'embrasse les nus. La tragédie ne doit jamais avilir son style. Et quand elle se trouve vis-à-vis d'un satyre, elle doit au moins laisser paraître l'embarras qu'éprouve une dame de qualité qui est obligée de danser dans les fêtes publiques. Pour moi, si je faisais des satyres, je ne me bornerais pas à prêter à ces sortes de personnages des discours brusques et grossiers. Je m'éloignerais du ton tragique, mais de manière qu'il y eût encore quelque différence entre ce que sait dire Davus ou l'effronté Pythias lorsqu'elle excroque à Simon un talent, ce que dit un Silène, serviteur et nourricier de Bacchus. Je prendrais pour modèle un familier si simple que chacun se croirait capable d'en faire autant. Et si on osait l'entreprendre, on suerait beaucoup, et peut-être sans succès, tant la suite et la liaison donnent de relief aux choses les plus communes. En un mot, selon moi, les satyres qui sortent des forêts ne doivent point dire de choses fines et délicates, comme s'ils étaient nés au milieu des villes ou parmi des hommes polis. Ils ne doivent pas non plus vomir des grossièretés ni des ordures. Et si la canaille qui vit de noix et de pois chiches les aime, le sénateur, le chevalier, le citoyen honnête s'en offense et leur refuse le prix. Une syllabe longue suivie d'une brève est ce qu'on appelle iambe, pied léger et rapide, qui a fait surnommer trimètre les vers iambiques, quoiqu'ils aient six mesures. Ce vers était autrefois tout composé d'iambes, mais depuis quelque temps, pour lui donner plus de consistance et de poids, l'iambe a bien voulu partager ses droits avec le grave spondé, à condition toutefois qu'il ne lui céderait jamais ni la seconde ni la quatrième place. Cet iambique moderne ne se trouve même que rarement dans les trimètres si connus d'Ennius et d'Axius. Un vers trop chargé de spondé prouve que l'ouvrage a été fait trop vite et avec peu de soin, ou que l'auteur ne savait point son art, reproche honteux. Il n'est pas donné à tout le monde de sentir le défaut de modulation dans les vers, et on a sur ce point trop d'indulgence pour nos poètes. Serait-ce pour moi une raison de me négliger et d'enfreindre les règles? Ne dois-je point plutôt croire que tout le monde verra mes fautes et me tenir sur mes gardes comme si je n'avais nulle grâce à espérer? Et encore, avec ce soin, je n'ai pas droit aux éloges, je n'ai fait qu'éviter le reproche. Lisez les modèles que nous ont laissés les Grecs et lisez-les jour et nuit. Mais nos aïeux ont vanté les traits et les vers de Plaute. Nos aïeux étaient trop bons pour ne rien dire de plus. Du moins, si vous et moi, nous savons distinguer un bon mot d'une mauvaise plaisanterie et juger par le doigt et par l'oreille de la régularité d'un vers. On dit que ce fut Thespis qui inventa le genre tragique et qu'il fut le premier qui promena dans des chars des acteurs barbouillés de lit qui chantait et jouait ses pièces. Après lui, Eschyle inventa les masques plus honnêtes et les robes traînantes. Il exauça un théâtre sur des tréteaux, il releva le style du dialogue et donna aux acteurs des chaussures hautes. La vieille comédie parut ensuite et fit beaucoup d'éclat. Mais sa liberté dégénérant en licence, elle mérita d'être réprimée par une loi. Le cœur comique fut donc forcé de se taire, n'ayant plus le droit de mordre. Nos poètes se sont exercés dans tous les genres. Ils ont même osé abandonner les traces des Grecs et traiter des sujets tout romains qui ne leur ont pas fait un médiocre honneur, tant dans le tragique que dans le comique. On peut dire même que le Latium n'aurait pas acquis moins de gloire par les ouvrages d'esprit que par sa valeur et par ses armes, s'il n'était aucun de nos poètes qui pût se donner la peine et le temps de limer. Illustre rejeton de Numa, défiez-vous de tout poème qui n'aura pas été corrigé pendant longtemps et poli et repoli 10 fois avec scrupule. Démocrite a dit que le génie réussissait mieux que l'art et que l'Hélicon n'admettait point les écrivains qui n'ont pas le cerveau blessé. D'après cet oracle, la plupart des poètes ont l'intention de conserver leur barbe, leurs ongles, de fuir les bains, de chercher les lieux solitaires. Vraiment, c'est le moyen de mériter le nom de poète et d'en avoir les honneurs. Il faut bien se garder de ne jamais confier au barbier Licinus une tête que 3 anticires ne guériront pas. J'ai donc grand tort de me purger tous les printemps. Personne ne ferait le meilleur vers que moi. Mais il n'est rien qui me tente à ce prix. Je ferai l'office de la pierre à aiguiser qui fait couper le fer et qui elle-même ne coupe point. J'enseignerai à bien écrire sans écrire moi-même. J'indiquerai les sources, je dirai ce qui nourrit un poète, ce qui le forme, ce qui convient, ce qui ne convient pas, où tend le bon goût, où mène l'erreur. Pour bien écrire, il faut avant tout avoir un sens droit. Les écrits des philosophes vous fourniront les choses, et lorsque vous serez bien rempli de votre idée, les mots pour l'exprimer se présenteront d'eux-mêmes. Quiconque saura ce qu'il doit à sa patrie, à ses amis, comme il doit aimer un père, un frère, un hôte, quel est le devoir d'un sénateur, d'un juge, d'un général qu'on envoie commander, saura aussi rendre à chaque personnage ce qui lui convient. L'habile imitateur doit toujours avoir devant les yeux les modèles vivants et peindre d'après nature. Une pièce qui aura des tableaux frappants et des mœurs exactes, quoique écrite sans grâce, sans force, sans art, fait quelquefois plus de plaisir au public et retient davantage des spectateurs que de beaux vers vides de choses et des riens bien écrits. Les Grecs avaient l'un et l'autre le fond du génie et les grâces de l'élocution. Aussi n'étaient-ils point avares que de louanges. Nos jeunes Romains savent partager l'as en 100 parties. Fils d'Albinus, qui de 5 ans sans autune, que reste-t-il? Parlez donc, un tiers, à merveille. Vous serez conservé votre bien. Ajoutez une once, combien cela fait-il? La demi-livre, quand une fois cette rouille, ce vil amour du gain a infecté les esprits, peut-on espérer des verdines d'être trempé d'huile de cèdre ou serré dans des tablettes de cyprès? Les poètes écrivent-vous pour plaire ou pour instruire ou pour faire l'un et l'autre ensemble? Si vous donnez des préceptes, qu'ils soient courts, afin que l'esprit les saisisse vite, les apprenne et les retienne fidèlement. Tout ce qui est de trop se répand hors du vase. Si vous inventez quelques fictions uniquement pour plaire, qu'elles soient très approchantes du vrai, la fiction n'a pas droit de nous offrir tous ses caprices, ni de retirer vivant de l'estomac d'une magicienne un enfant qu'elle vient de manger. Nos graves sénateurs rejettent ce qui n'est pas instructif. Nos jeunes chevaliers ne s'arrêtent pas aux pièces trop sérieuses. Le point de la perfection est de savoir mêler l'utile à l'agréable, de savoir plaire et instruire. Voilà le livre qui enrichit les sosies, qui franchit les mers et immortalise son auteur. Ce n'est pas qu'il y ait des fautes dignes de pardon. La corde de l'instrument ne rend pas toujours le son que le doigt et la pensée lui demandent. Quelquefois, elle donne un son grave pour un son aigu. La flèche qui part ne frappe pas toujours le but. Que dans un poème, le grand nombre soit celui des beautés, je ne m'offenserai pas de quelques tâches échappées à l'attention, ou que la faiblesse humaine n'aura pu éviter. Mais comme un copiste ne mérite point de grâce, quand il fait toujours la même faute, quoi qu'on l'ait averti, et qu'on se rit d'un joueur d'instrument qui se trompe toujours sur la même corde, de même un auteur trop plein de négligence devient pour moi un autre Chéril, que j'admire en riant dans 2 ou 3 endroits où il a réussi, au lieu que je souffre quand il arrive au bon Homère de sommeiller. Mais il est permis dans un long ouvrage de s'oublier un moment. En poésie comme en peinture, il y a des morceaux qu'il faut voir de près et d'autres qui plairont davantage de loin. Ceux-ci craignent la lumière, ceux-là aiment le plus grand jour et ne redoutent point l'œil perçant de la critique. On les a vus une fois, on les verra 10 et toujours avec un nouveau plaisir. Aînés des pisons. Quoique vous soyez né avec un sens droit et conduit par les sages leçons d'un père éclairé, écoutez ce que je vais vous dire et tâchez de ne pas l'oublier. Il y a des gens où il est permis d'être médiocre. Un juriste consulte, un avocat, n'ont pas le talent de Messala ni la science de Casselius, cependant ils ont leur prix. Mais pour un poète qui n'est que médiocre, ni les dieux ni les hommes ne lui pardonnent, ni même les colonnes du lieu où il récite ses vers. Comme dans un repas de plaisir, une mauvaise symphonie, des parfums médiocres, des pavots mêlés avec le miel de Sardaigne, blesse des convives délicats parce qu'on pouvait prolonger sans cela le plaisir d'être à table. De même un poème dont l'objet est de plaire à l'esprit, s'il n'est pas excellent, est dès lors détestable. Quand on ne sait point faire des armes, on ne s'avise point de manier le fleuret. Quand on n'a point appris à lancer la balle, le disque, le cercle, on se tient en repos, pour n'être point la risée des spectateurs. Et cependant, sans être poète, on veut faire des vers. Pourquoi non? Ne suis-je pas libre et citoyen? N'ai-je pas les rentes de chevalier? A-t-on quelque chose à me reprocher? Pour vous, Pison, vous n'écrirez rien. Vous ne ferez rien sans en être avoué de Minerve. Vous avez trop de sens, trop d'esprit pour agir autrement. Si toutefois vous composiez jamais quelque ouvrage, ne manquez pas de consulter l'oreille de Métius, celle de votre père, la mienne même, et gardez-le 9 ans dans vos tablettes. Tant que votre ouvrage sera dans le portefeuille, vous pourrez y faire des rechangements. Mais s'il a pris une fois son essor, il ne revient plus. Les hommes vivaient dans les forêts. Orphée, prêtre et interprète des dieux, leur apprit à respecter le sang humain et à s'abstenir d'une nourriture indigne de l'homme. Ce qui fit dire qu'il avait apprivoisé les tigres et les lions cruels. On a dit de même d'Amphion, fondateur de la ville de Thèbes, qu'il attirait les pierres par les sons touchants de sa lyre et qu'il les menait où il voulait. Dans le commencement, la poésie était le seul organe de la sagesse. Ce fut elle qui distingua le bien public de l'intérêt particulier, le sacré du profane, qui arrêta le brigandage des mœurs, qui fixa les liens du mariage, qui bâtit les villes, qui grava les lois sur le bois. Et ce fut ce qui mit en honneur les poètes et les vers. Homère parut, ensuite Tyrthée, dont les vers mâles animèrent au combat les courages guerriers. Les oracles firent leur réponse en vers. La morale prit le même langage. La douce voix des muses fut employée pour fléchir les rois. Enfin, on inventa les spectacles et les jeux à la fin des longs travaux. Après le si glorieux emploi de la poésie, qui pourrait rougir de toucher la lyre et de prendre les leçons d'Apollon? On a demandé si un bon poème était l'ouvrage du génie ou celui de l'art. Pour moi, je ne vois pas ce que peut faire l'art sans le génie, ni le génie sans l'étude. Ils ont besoin l'un de l'autre et doivent se réunir pour arriver au but. L'athlète qui désire de remporter le prix de la course s'y est préparé dès sa jeunesse par des exercices pénibles. Il a supporté le chaud, le froid. Il s'est abstenu du vin et de l'amour. Le flûteur qui joue aux fêtes d'Apollon Pythien a longtemps appris son art et craint un maître sévère. Aujourd'hui, c'est assez qu'on dise « Les vers que je fais sont admirables, malheur à qui sera le dernier. Je serai honteux de l'être et d'avouer que j'ignore ce que je n'ai jamais appris. » Un poète riche, qui rassemble chez lui des admirateurs intéressés, est semblable à un huissier crieur qui amasse autour de lui le peuple pour vendre des marchandises. S'il a de plus une bonne table et qu'il soit homme à cautionner le débiteur pauvre, à le tirer d'un mauvais procès, je serais bien étonné s'il a le bonheur de distinguer l'ami vrai du flatteur. Si vous venez de faire ou si vous êtes au moment de faire à quelqu'un un présent, Gardez-vous de lui réciter vos vers, tandis qu'il est encore plein de sa joie. Il s'écriera « Oh, que cela est beau, que cela est admirable !» Il pâlira, il bondira, il pleurera de tendresse, il frappera du pied. Comme ceux qui sont payés pour pleurer aux funérailles et disent et en font presque plus que ceux qui sont vraiment affligés. De même, un flatteur qui se moque de nous fait plus de démonstrations qu'un approbateur sincère. Les rois sont plus sages. Ils enivrent celui dont ils veulent faire leur ami, et le vin, comme une douce torture, fait sortir la vérité. Si vous faites des vers, défiez-vous de ces trompeurs enveloppés de la peau du renard. Si vous lisiez quelque chose à Quintilius, il vous dirait « Corrigez ceci, encore ceci ». Vous lui disiez que vous ne pouviez pas faire mieux, que vous aviez essayé deux fois, trois fois. Effacez donc le morceau et remettez la matière sur l'enclume. Si au lieu de vous rendre, vous preniez la défense de l'endroit attaqué, il n'ajoutait plus un mot et ne se fatiguait pas en vain pour vous empêcher de vous aimer, vous et vos productions, seul et sans rival. Un critique éclairé et vrai blâmera un vers lâche ou dur, il crayonnera un endroit peu soigné, il retranchera les ornements fastueux, fera éclaircir ce qui est obscur, vous arrêtera sur une expression équivoque, marquera ce qui doit être changé. En un mot, il fera le devoir d'un Aristarque. Il ne dira point pourquoi faire de la peine à un ami pour des riens. Ces dieux peuvent avoir des suites et rendre votre ami ridicule une fois pour toujours. De même qu'on fit à un homme qui a la lèpre, le mal de roi, qui le fanatisme, où la colère de Diane a troublé le cerveau, on fuit de même, quand on est sage, et on craint de toucher un poète fou de lui-même et de ses productions. Il n'y a que les enfants et ceux qui ne savent pas le danger qui le suivent et l'approchent. Si donc, lorsqu'il enfante sans douleur des vers sublimes, et qu'il marche comme les guetteurs de merles, sans voir à ses pieds, il tombe dans un puits, ou dans une fosse profonde, et que d'une voix plaintive il s'écrie « Au secours, chers citoyens, au secours !» que personne ne s'avise de l'en tirer. Si par pitié quelqu'un voulait lui jeter une corde pour l'aider à sortir de là, « Que savez-vous, lui dirais-je, s'il ne s'y est point jeté exprès, s'il veut qu'on le sauve ?» Et je lui raconterai l'aventure du poète Empédocle, qui, voulant se faire passer pour un dieu, sauta de sang-froid dans l'Etna enflammé. Qu'il soit permis à un poète de se détruire. Le sauver malgré lui, c'est autant que de le tuer. Ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait. Et si on le retire, il ne se résoudra pas plus à n'être qu'un homme et à mourir d'une mort dont il ne soit point parlé. On ne sait pas trop pourquoi il fait des vers. Si c'est qu'il a souillé les cendres de son père ou profané quelques lieux saints, au moins est-il sûr qu'il a une furie qui le possède. Et comme un ours qui a brisé les barreaux de sa loge, lecteur impitoyable, il met en fuite le savant et l'ignorant. Malheur à celui qui l'a saisi, il le tient et le fera expirer sous ses vers. C'est une sangsue qui ne quittera pas prise qu'elle ne soit gonflée de sang.